Toujours bien de contempler Jésus qui regarde. Quelle est sa manière de regarder? Qu'est-ce qu'il note? Sur quoi son regard porte? Et au fond, en regardant, Jésus découvre ce qu'il y a de beau en nous. Nous avons évoqué ensemble ce matin la question de la beauté. La beauté, c'est d'abord l'éducation du regard. Et c'est vrai que, bien sûr, il y a la beauté artistique, on l'a évoqué ce matin, mais il y a aussi d'autres beautés. La beauté d'un geste, la beauté d'une personne, d'un visage, la beauté d'une situation, la beauté d'une attention. Et au fond, tout ce qui est relationné à notre humanité et qui a besoin comme d'être recueilli, d'être manifesté. On l'a dit ce matin, l'artiste vient comme manifester quelque chose d'invisible quand il est mu par la foi, mais aussi on peut dire que celui qui a la foi souligne ce qui est beau et qui n'est pas visible aux yeux de beaucoup, souligne ce qu'il y a au fond de plus profond dans le cœur de chacun. Et là, Jésus qui arrive chez Zachée, collecteur d'impôts, c'est-à-dire collaborateur, hein, si on était sous l'occupation allemande, c'est un collabo, c'est lui qui permet de donner l'impôt au César pour faire financer l'occupation de la Terre Sainte, d'Israël. Donc vraiment, et en plus riche, donc on peut penser aussi que ça transitait par lui, mais que peut-être il y a une ponction comme ça qui tombait dans sa propre poche. Donc quelqu'un de relativement peu recommandable. Et c'est Jésus qui le voit. C'est ça qui est. Lui cherche à voir Jésus. Il faut toujours se représenter la scène. Lui, il cherchait à voir Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc, il y avait quand même dans cet homme un désir de une curiosité peut-être, de découvrir qui est Jésus. Et je crois que cette curiosité doit aussi nous habiter. Qui est vraiment le Seigneur? Il y a peu de temps, j'ai appris que parmi les livres les plus édités au monde, c'était des livres sur qui était Jésus. Le nombre de livres sur cette question-là, sur la présence du Christ, est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est un blasphémateur? Un mégalomane? Quelqu'un de pas équilibré psychiatriquement? Beaucoup de personnes dans les hôpitaux psychiatriques disent qu'ils sont Dieu. Qui est Jésus? Et je crois que cette quête doit nous habiter chacun. Mais en même temps, il y a cette rencontre entre le désir que porte cet homme et puis le regard du Christ. Le regard du Christ qui pointe sur lui, alors que le texte le dit bien, il y avait la foule. Il y avait la foule qui était tout autour. Le regard du Christ qui juste pointe sur cette personne qui était à Jéricho, eh bien, descends vite, je veux aller demeurer chez toi. Demeurer, c'est très fort comme verbe dans la Bible. C'est très fort parce que ça fait allusion à justement Dieu qui a voulu faire sa demeure parmi nous. Il a voulu demeurer au milieu de nous, le Christ lui-même, l'image du Père, il a voulu demeurer. Et donc, ce geste-là va au contraire manifester à Zachée tout ce qu'il y a de plus beau et tout ce qu'il y a de plus grand en lui. Et je crois que c'est bien souvent comme ça, c'est n'attendons pas que l'autre fasse le premier pas. N'attendons pas que l'autre soit impeccable pour s'approcher, soit potable à nos yeux. N'attendons pas au contraire qu'il soit dans nos cadres, mais acceptons de faire le premier pas pour lui révéler à lui-même ce qu'il a de meilleur. C'est ça au fond l'attitude d'imitation du Christ quand on contemple cette scène, c'est de voir Jésus qui dit « je vais même demeurer, je vais loger chez toi ». C'est-à-dire que toute la foule, d'un seul coup, alors que l'idée qu'elle avait de cet homme était une idée piètre, collaborateur qui finance l'occupant romain et s'en met plein les poches, tout d'un coup, ça a changé. Ça a changé parce que le Christ a dit, voilà, c'est lui chez qui je veux loger. Et ça fait allusion à la première lecture. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres, car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. Je crois que c'est bon d'avoir dans notre vie de croiser un regard de miséricorde. Parce qu'on a beaucoup besoin de miséricorde les uns et les autres. Nous ne sommes peut-être pas comme ce collecteur d'impôts plus ou moins honnête, mais ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas besoin de pardon, ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas parfois le désir de dominer l'autre ou de le manipuler pour l'emmener là où nous souhaitons. Ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas le cœur impur, de croiser un regard de miséricorde, un regard qui donne une autre chance. C'est de moins en moins fréquent dans notre vie moderne où, cette forme de perfectionnisme, parfois même dans nos éducations respectives, cette forme de perfectionnisme qui ne laisse pas la place à l'erreur. La barre est mise haute. Mais il y a une forme d'esclavage dans ce style d'éducation, même s'il y a des choses positives. Mais il faut prêter attention, parce qu'à force de mettre la barre haute, eh bien on la met aussi aux autres, et on accueille moins la fragilité et la vulnérabilité dans l'autre. Or, le fait de rentrer dans une dimension d'amour, c'est d'accueillir la vulnérabilité dans l'autre, que l'autre est capable de se tromper, de faire des erreurs, voire même capable de pécher et de s'éloigner du Seigneur et de faillir presque à sa parole. Oui, aujourd'hui plus que jamais, il est besoin d'hommes et de femmes qui donnent et transmettent un regard de miséricorde, de compassion. Et vous savez que le mot miséricorde, ça vient de deux mots latins, hein, cœur et misère. C'est mettre du cœur dans la misère, donner du cœur à la misère, avoir du cœur pour la misère. Alors qu'il peut être un autre regard plus cynique, plus raide, qui voit tout de suite le point noir dans la page blanche et souligne ce qui ne va pas. Et je crois que malheureusement en France, on est assez dans ce regard critique. Et le fait de rencontrer d'autres réalités, ça a été mon cas en Amérique latine, de croiser des regards de bienveillance, alors que je savais parler deux, trois mots, on me disait, vous parlez de façon magnifique, et les personnes étaient assez sincères, peut-être pas très lucides, mais assez sincères. Alors c'est vrai qu'elles étaient avec un regard de bienveillance, mais aussi jamais à l'heure. Bon, alors c'est aussi un peu exaspérant qu'on a une mentalité où on était à éduquer à une certaine rigueur. Mais vous voyez, je crois que dans nos éducations, et vous êtes à des âges où vous avez un regard sur votre propre éducation, bien sûr, rendre grâce pour le meilleur, et nous sommes parmi les... Nous avons tellement reçu, nous l'avons dit plusieurs fois ce week-end, mais en même temps, est-ce que je vais oser la miséricorde? Est-ce que je vais oser... la main tendue, est-ce que je vais oser franchir des barrières de celui qui n'est pas fréquentable? L'Église, elle est Église parce qu'elle s'ouvre à l'autre, non pas parce qu'elle s'ouvre au même et au semblable. Faire attention, nous en parlions dans le bus avec mes voisins, et parfois on se rassemble, c'est un peu logique, entre gens semblables, alors que la nature de l'Église, c'est de s'ouvrir à l'autre, à celui qui n'est pas semblable, évidemment Dieu, mais aussi à l'autre qui n'est pas dans le même style de pensée, de valeur. Et c'est la grâce de l'Église de rassembler des personnes extrêmement différentes. Alors on va demander au Seigneur d'avoir ce regard de compassion, de miséricorde, qui va au-delà du jugement de la foule. La foule est terrible. La foule est terrible. Elle juge et elle condamne. Mais justement, Jésus ne se laisse pas impressionner. Alors si nous accueillons ce regard, d'abord nous-mêmes nous laisser regarder par le Seigneur dans nos fragilités, dans ce que l'on n'aime pas trop montrer aux autres, eh bien dans la confession, on se laisse regarder par le Christ, eh bien nous, c'est la condition comme nécessaire pour avoir un regard vers d'autres et redonner l'espérance, parce qu'il s'agit bien de ça. Eh bien voilà, je vais permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-même. Quand il dit « Je vais faire don aux pauvres de la moitié de mes biens », on imagine pour lui, c'est pratiquement le maximum de ce qu'il peut faire. Hein. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, hein, je rendrai 4 fois plus. Alors il y a une condition pour accueillir la miséricorde, c'est l'humilité. Et nous en parlerons peut-être, si le temps le permet. Cette question-là est centrale dans la vie chrétienne. Se laisser aimer dans sa fragilité et se laisser aimer dans sa vulnérabilité. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça demande tout un chemin intérieur où soi-même, on prend conscience que le Christ nous aime dans nos abîmes. Dans nos abîmes. Alors en cette veille de la Toussaint, rappelons-nous que la sainteté n'est pas l'impeccabilité. Seule la Vierge Marie est, comme personne humaine et immaculée conception, Jésus personne divine. Mais tous les saints ont eu, et parfois certains, des grandes difficultés, des vies assez difficiles. Mais justement, la grâce, c'est que, en nous laissant toucher, c'est Dieu lui-même qui nous transforme. Alors demandons, si notre cœur nous accuse, rappelons-nous cette parole, que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'aujourd'hui, il veut faire sa demeure chez nous. Amen.